With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On a le meilleur jeu de l'histoire dans le Game Pass, la date pour God of War Ragnarok, des dramas et de la toxicité. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, de son industrie et de sa communauté, pour le meilleur et parfois pour le pire. Même s'il y a des sujets qui sont parfois un petit peu compliqués à traiter et compliqués même d'avoir un avis dessus, on en parlera dans un instant. Mais pour le moment, c'est la joie et le bonheur puisque j'accueille encore une fois dans l'émission J. Caloret, mon co-animateur préféré. Je vais arrêter de faire la blague.
Non, bah, si, attends, t'es obligé de le dire à chaque fois, sinon je serais vexé. Hein. Même si je sais que c'est pas vrai.
Tu préféré, vois. Ouais, c'est ça, on prétend tous les deux, tu sais, il faut pas briser l'illusion, même si on sait bien que mon animateur préféré, c'est Dany, qui ne peut plus être
c'est
avec
sûr
nous.
C'est sûr que t'as décidé, Dany. Ouais. Ouais, bah écoute, hein, on réglera nos comptes plus tard. Je comptais l'inviter dans le mois de juillet quand tu seras pas là, mais bon, peut-être que finalement.
Ah ouais, dans la rivalité.
Elle est trop dure. Est trop dur. C'est mais un oui, peu limité, que... c'est les Rolling Stones, tu vois, à l'époque. Quoi.
C'est ça, exactement. Bon, mais parce que les vacances arrivent, c'est le dernier épisode avant les vacances, et pour les vacances, je vous ai préparé quelques épisodes spéciaux qui, j'espère, vous plairont avec des sujets vraiment intéressants. Et il y aura d'ailleurs aussi une intervention en remplacement de mon co-animateur préféré, du coup.
Voilà, qui sera du coup l'animateur. Et peut-être cette fois-ci, je vais arriver à garder les clés de l'émission et à rester le lead du rendez-vous jeu.
C'est
peut-être
ça.
Que je fermerai la porte et je jetterai les clés par la fenêtre et tu pourras plus rentrer et ce sera mon émission. Voilà.
Ouais, il faut que je fasse attention avec mes logins et mots de passe pour les mises en ligne des trucs.
C'est
tu vas,
ça.
Tu vas réussir à corrompre Fanny qui va, qui va changer les mots de passe.
On est en train de préparer un plan infaillible.
C'est ça. Mais vous savez quoi ? Les gens qui sont totalement infaillibles également, c'est les gens qui soutiennent l'émission, les Patriotes, dont on a deux nouveaux membres qui ont rejoint la grande famille, Anthony Pettigrew et Mathieu. Merci à vous deux et merci aussi aux producteurs qui ont trouvé le niveau secret du soutien sur patreon.com/rdvjeux, Lancelot Davizard et Steph Sinalco. Ils sont allés sur la page patreon.com/rdvjeux et ils ont scruté, regardé, exploré comme dans un grand jeu vidéo. Ils ont trouvé ce niveau secret, donc merci à tous les deux. On les remercie chaque mois et même parfois un petit peu plus. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission et du coup de lui permettre d'exister et qui font partie de cette famille merveilleuse qui se retrouve sur Discord, par exemple, ou même sur Twitch de temps en temps, le jeudi midi, quand on se retrouve pour enregistrer. Mais du coup, là, pendant quelques semaines, il n'y aura pas ces retrouvailles sur Twitch. Vous inquiétez pas, on pourra quand même vivre nos vacances ensemble sur le Discord parce que c'est le lieu où on aime aller. Donc on y va, même quand il n'y a pas d'émission. Tous les liens sont sur notrepatrick.com, évidemment. Du coup, on a des sujets. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas les sujets les plus monumentaux de l'histoire. On sent qu'il y a des vacances qui se profilent. Donc, même les sociétés de jeux vidéo, visiblement, en profitent. Mais il y a quand même...
Disons que dans le conducteur, le premier sujet, c'est quand même Powerwatch. Donc, ça a l'air de vraiment y tenir énormément. Donc, j'espère qu'on va passer une demi-heure sur ce jeu.
Écoute, on est parti pour parler de tous les sujets importants, comme effectivement Powerwash Simulator, qui est inclus dans le Game Pass ce mois-ci. Et évidemment, c'est le jeu qu'on retient de cette nouvelle fournée. Alors, il y a d'autres choses, hein, mais des choses qui ne sont pas importantes. Franchement, ce n'est pas une fournée incroyable non plus. J'ai vu beaucoup de gens parler de Peppa Pig. On parlait de nos enfants juste avant de lancer l'enregistrement.
Je crois qu'il y a, ouais. C'est très enfant, il y a ça, il y a aussi Pat Patrouille, je crois que j'ai vu, il y a un jeu de Pat Patrouille, il me semble.
C'est ça.
Et voilà.
il y a le retour.
C'est l'été, hein, ça se voit. Hein.
Ouais, ouais, c'est ça, faut occuper les enfants. Il y a le retour de certains jeux Yakuza. Ils y étaient, et puis ils ont disparu, et puis ils reviennent, là, visiblement. Il y a Road 96 aussi, qui avait eu quelques bons retours. Mais surtout, Power Wash Simulator, vous savez, c'est ce jeu de Karcher où on doit. C'est le truc le plus. Enfin, j'imagine, hein, j'en sais rien, moi, j'y ai pas joué jusqu'à maintenant, mais là, ça sera l'occasion. C'est le jeu qui est genre de l'ASMR vidéoludique où on nettoie avec un Karcher plein de choses, des voitures, le sol, des maisons, tu vois. Et sincèrement, je pense que je vais l'essayer celui-là. Mais oui, donc voilà, c'est typiquement un jeu que j'aurais jamais acheté de ma vie. Enfin, peut-être, on ne sait jamais. Mais le sentiment, tu vois, l'idée d'avoir un truc super, super cradoc que tu vas nettoyer, même virtuellement, j'ai l'impression de nettoyer ma vie, tu vois.
Ouais, ouais, bien sûr, c'est comme ces gens qui ont des espèces de petits kinks, tu vois, qui vont nettoyer les, je sais pas, les brosses à cheveux, tu vois, des trucs comme ça, qui vont passer une heure avec les petits cheveux. Bah là, c'est pareil, en fait, mais en jeu vidéo. Et je sais qu'on en avait parlé dans cette USD, il me semble, avec Sylvain, qui était, Oupi, qui a un pareil, qui adore ce genre de simulation, hein, on peut dire ça comme ça. Et Yannou, c'est pareil, lui, tu lui mets un, alors lui, c'est plus les camions, les bus et les choses comme ça. Il y a Paul Roche,
American Truck Simulator,
il est absolument passionné par ces jeux-là. Et Sylvain, effectivement, la dernière fois, ils avaient parlé de ça et aussi de
Lawnmower Simulator, ouais, le simulateur.
Voilà,
ce
qui est un jeu de tondeuse à gazon où tu dois tondre le gazon dans des maisons. Et c'est passionnant dans un certain espace, bien sûr. Mais il y a un vrai public pour ce genre de jeux qui sont un peu des jeux blagues en fait au départ, hein, tu vois, c'est comme Surgeon Simulator, voilà, c'est pas le même pas la même ambiance, mais à la base c'est quand même des jeux qui sonnent comme des blagues en fait, et je pense que tu te prends au jeu. Alors je l'ai pas essayé pour Overwatch Simulator, hein, donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais
le 14 juin,
ça sera l'occasion,
tu vois, ouais. pour dignement fêter notre jeu national.
On va nettoyer la Bastille à coup de Karcher.
Alors là, il y a des allégories à faire sans limite.
Ah hein. Oui, t'as vu ça.
Mais oui, donc voilà, moi j'avais essayé PC Building Simulator qui était assez marrant. Mais je l'avais fait en live d'ailleurs à une époque lointaine où j'avais encore le temps de faire des tests.
C'est des jeux à streamer aussi. Hein. Ouais. Enfin, ça, c'est des jeux parfaits pour un streamer qui a envie de rigoler un soir avec sa communauté. Voilà quoi.
C'est clair. Donc voilà, il y a ça, mais il y a une vraie news en fait dans cette histoire de Game Pass aussi. Le fait que Microsoft a annoncé qu'à partir de séquencé octobre, il n'y aura plus de jeux Xbox 360 inclus dans le Xbox Live Gold, donc enfin Games with Gold, donc c'est pas tout à fait le Game Pass, mais on sait qu'ils aimeraient lâcher les jeux Games with Gold depuis un moment. Là, il commence à concrétiser la chose, il n'y aura plus de jeux Xbox 360, ce qui veut dire qu'il y avait encore des jeux Xbox 360 jusqu'à maintenant. Par contre, ils ne remplacent pas par des jeux Xbox Series. C'est clairement, il y aura encore un ou deux jeux Xbox One, mais ça réduit la voilure. Bon, il faut avouer qu'encore trouver des jeux Xbox 360 intéressants, déjà, ils n'y arrivaient pas trop, ou en tout cas, ils ne voulaient pas trop le faire, les jeux intéressants dans le Games with Gold. Ils poussent bien sûr le Game Pass, mais là, ils commencent à réduire la voilure. Donc, à partir d'octobre, si vous dévoriez les jeux Xbox 360, et ben maintenant, vous ne pourrez plus. Je pense que peu de gens s'en plaignent en même temps.
Oui, je suis étonné qu'il n'ait pas fait plus tôt. Hein. En vrai, pour moi, le Xbox Live Gold n'avait plus vraiment de sens dès lors qu'il y a le Game Pass, quoi.
C'est ça, exactement. Ils avaient essayé de faire un truc. Qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire? De décorréler le gold ou de supprimer le gold, un truc du genre. Ouais. Et ça n'avait pas dû. C'était pas du tout passé. C'était il y a un an, quelque chose comme ça. Mais bon, donc là, ils y vont lentement. Et je pense que ça passera un petit peu plus. Bon, une information un peu plus importante encore, la date de God of War Ragnarok qui a été confirmée après de nombreuses rumeurs, des attentes, et on se demandait même s'il n'avait pas été décalé à 2022. Eh bien non, avec une toute petite vidéo de 30 secondes, je suis un petit peu surpris qu'ils l'aient fait comme ça, ils ont confirmé la sortie de God of War Ragnarok avec quelques images qui ont l'air d'être des images in-game, mais en mode cinématique, pas en mode gameplay. Et c'est relativement court, hein, ça dure quoi, 20 secondes les images du jeu, 20-25 secondes. On n'y apprend pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est la confirmation que Ragnarok sortira bien cette année. Il est donc prévu pour le 9 novembre de cette année. Certains n'y croyaient plus, mais ça arrivera bien. Ça arrivera bien.
Ah oui, parce que, et surtout, il faut quand même que Sony ait un triple A à la fin de l'année. Et jusqu'à présent, il n'y en avait pas, si je ne dis pas de bêtises, on en exclut, hein, un triple A exclusif. Hein. Et ça y est, ils ont quand même leur jeu, là, leur jeu étendard de la fin de l'année.
Exactement, oui.
C'est quand même hyper important, quoi.
On se demandait s'ils allaient effectivement décaler à 2023, parce qu'on n'en avait pas entendu parler depuis longtemps. Et puis, il y a aussi cette idée que, possiblement, ils auraient pu... Enfin, cette idée que moi, j'évoquais, ils auraient pu se dire, bon, bah, on n'a pas assez de consoles à vendre, elles se vendent toutes de toute façon. Donc, peut-être qu'on peut garder le jeu pour faire un gros coup quand on aura des consoles qu'on aura besoin de vendre. En même temps, avec l'inflation, tout ça, il y a des gens qui se disent qu'ils auront plus, qu'on aura peut-être moins d'argent à dépenser dans les consoles. À savoir. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que tu décèles des indices intéressants sur le jeu ? On voit que Atreus est plus grand, il a gagné quelques années, et puis on voit à la fin Fenrir, le loup géant qui a l'air d'être dans la tradition des monstres monumentaux titanesques que combat Kratos dans les épisodes précédents. À voir si on le combattra, mais là, il fait la taille d'un immeuble, quoi. Donc,
est-ce qu'ils vont revenir justement à une échelle et une sorte de rythme un peu plus comme les épisodes PS2, PS3, avec effectivement des colosses, des titans que tu vas escalader, ce genre de truc, quelque chose qui n'y avait pas forcément dans le dernier, hein, que j'adore, hein, le dernier au demeurant, mais peut-être qu'ils vont revenir à ça, ce qui peut être intéressant aussi. Hein.
Tout à fait, ouais, je suis assez d'accord. Donc à voir, les échos autour du jeu semblent être assez positifs. Enfin, ce qu'on en a entendu, c'est des rumeurs qui ont été relayées par des échos relayés par Jason Schreier, qui est généralement très informé et qui est assez neutre. Maintenant, à voir d'où il tire ces informations. Mais les développeurs ont l'air d'être assez excités par le jeu et c'est en gros ce qu'ils semblent dire, c'est vous n'allez pas être déçus. Donc bon, j'imagine qu'on aura après l'été des présentations un petit peu plus longues parce que là, la date juste avec 30 secondes, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris. Mais bon, on aura plus d'infos certainement d'ici la fin de l'été, peut-être en août. Et on aura des premières previews. Je suis sûr qu'ils vont lancer la machine marketing quand on reviendra de vacances. Un petit truc, on parlait la semaine dernière de Return to Monkey Island et on faisait remarquer que c'est quand même dommage que tu n'aies pas été là quand on parlait de Monkey Island, parce que c'est un truc indispensable. Et on a eu une occasion supplémentaire, peut-être pas hyper positive, avec une suite à la publication d'un trailer de Return to Monkey Island. Il y a eu un tel niveau de harcèlement et de toxicité sur les forums du jeu que Ron Gilbert, le créateur, qui est le créateur depuis le début de Monkey Island, a carrément décidé de fermer les commentaires sur le blog. Il a l'air tellement défait. Il dit simplement, les gens n'apprécient pas, les critiques n'apprécient pas le style graphique, ce qui est bon, enfin, il est peut-être pas pour tout le monde, mais il est pas non plus complètement lamentable. Et puis il fait un commentaire qui me fait penser à ce que je disais sur les communautés de joueurs il y a une ou deux semaines. Il dit, vous êtes lancé dans des attaques personnelles. Nous, on adore le jeu, on en est très fiers, mais je ne peux pas tenir sur un truc comme ça. Donc, on va plus poster, je ne vais plus rien poster sur le jeu. Vous m'avez détruit la joie de partager ce qu'on fait. C'est assez amer. J'imagine que ça te touche en plus, parce que toi, c'est un jeu et un créateur auquel tu tiens.
Donc, Bah, ça me met en colère et ça me rend un peu triste. Surtout que je pense que la réaction de Ron Gilbert, elle est aussi assez forte, parce que je pense qu'il avait jamais eu l'occasion, malheureusement, enfin heureusement, cela dit, d'avoir affaire à ce genre de polémique entre guillemets, ou de polémique, on va dire ça comme ça, parce que jusqu'à présent tous les jeux qu'il avait sortis, voilà, il y avait pas là disons que Monkey Island est un truc tellement énorme, mine de rien, pour un certain public, tellement attendu, etc., que forcément les réactions passionnées peuvent aussi attirer une communauté toxique et merdique. Franchement, c'est vrai que le style graphique il est clivant. Clairement, moi notamment, j'ai eu un peu de mal au début à l'apprécier. Je sais que j'ai regardé le trailer plusieurs fois, celui qui a été diffusé pour le Nintendo Direct, et on va dire que maintenant je commence à me dire ouais, ça, il y a un style vraiment très 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 prononcé que je pense que j'aime bien. J'ai hâte d'avoir le jeu dans les mains pour pouvoir voir vraiment si ça me plaît. Mais c'est vrai que moi aussi j'étais un peu mitigé, mais à un moment donné, enfin. Évidemment que jamais tu vas attaquer les développeurs, mais c'est l'histoire du jeu vidéo depuis que les réseaux sociaux existent, quoi. Critiquer le rendu graphique et dire j'aime pas. Ok, c'est une chose, mais dire, par exemple, là, à un moment donné, moi, j'ai sur Twitter, je me suis exprimé en disant que voilà, c'est pas votre jeu, vous avez pas votre mot à dire sur la vision artistique du jeu. Si ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, je peux jouer à autre chose, voilà quoi. Et un gars m'a répondu, il dit que, enfin, je me souviens qu'un quelqu'un m'a répondu en disant, je suis pas d'accord, c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps que, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps qu'en gros, ils ont leur mot à dire sur ça, quoi. J'ai dit, non, vous avez pas votre mot à dire sur ça. C'est un jeu, et en plus il a dit dès le début c'est un jeu de Ron Gilbert et d'une équipe derrière bien sûr, mais avant tout c'est son jeu, c'est le jeu qu'il veut faire, donc à partir du moment où c'est le jeu qu'il veut faire, faites-lui confiance. Si le graphique vous plaît pas, essayez quand même le jeu, et si vraiment ça vous repousse, tant pis, voilà, vous serez déçu. Monkey Island, en tant que Monkey Island, vous aurez déçu, c'est pas grave, vous allez vous en remettre,
vous,
quoi.
Survivrez, ouais,
et, vous survivrez quoi. Donc putain, fichez la paix à ces gens, à ces artistes, à ces gens qui décident de faire quelque chose. Et voilà, le jeu n'a pas été kickstarté, le jeu n'a pas été mis en financement participatif, donc ils n'ont rien, ils n'ont aucun contrat à rendre à personne en fait. Mmh. Donc voilà, et évidemment que si nous avaient mis un des graphismes pixel art tout pourri en 6 couleurs, bon là ça aurait peut-être été légitime de dire vous moquez un peu de nous, mais là je suis désolé, non, il y a un vrai parti plus artistique qui est ce qu'il est, qui est effectivement clivant, je suis d'accord, mais qui au moins tranche avec ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que Monkey Island, faut quand même se rappeler que les deux premiers épisodes sont en pixel art, et après à partir du 3, du 4 et d'après, ça a été des styles graphiques très différents à chaque fois. Pourquoi celui-là serait pas à nouveau différent, donc ouais. Voilà quoi. Donc voilà, ça m'énerve parce que encore une fois, il y a des gens qui pensent que qu'une œuvre leur appartient et qu'ils ont leur mot à dire. Faites votre Monkey Island à vous si vous n'êtes pas content, quoi.
Voilà. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce genre de réaction est quand même critiquable. Je crois que, comme tu le disais, qu'on n'apprécie pas et qu'on le fasse savoir de manière comment dire, constructive, ou qu'on dise simplement, moi, les graphismes, je trouve ça moche, c'est une chose. Mais comme le dit oui, voilà. Gilbert, le truc qu'il a fait passer, qui semble l'avoir le plus affecté, et ce qu'on comprend, c'est les attaques personnelles. C'est les trucs hyper ciblés, les insultes, la toxicité vraiment caustique. Et y a une énorme différence entre le fait de dire les critiques constructives, de dire moi j'aime pas ça pour telle et telle raison, ça a l'air de ressembler à ça, c'est pas ce que j'attendais de l'héritage de Monkey Island qui a tellement compté dans mon enfance, j'en sais rien. Et il y a une différence entre ça et le fait de descend into des attaques personnelles. Peut-être que les gens qui ont un tel attachement au jeu n'arrivent pas à ordonner leurs idées, à dire les choses clairement. Ils ont une réaction, tu vois, un petit peu épidermique, et simplement ils ont l'habitude d'Internet et de lancer des insultes. Ça n'excuse rien, évidemment, mais bon, bref. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, quoi, ou de d'exprimer son opinion.
Ouais, mais, bien sûr,
comme pour que ça amène. On va conclure, mais. Pour que ça amène Ron Gilbert, qui peut-être, comme tu le disais, n'a pas été confronté directement à ça depuis longtemps, parce que, il faut avouer que ça fait longtemps.
Même jamais, je pense, parce que, les jeux qu'il faisait, c'était des petits jeux, entre guillemets, dans le sens où il n'y avait pas ce raisonnement, voilà. Oui, mais même, il a quand même fait des jeux récemment, mais qui avaient beaucoup moins de résonance, tu vois, sur le marché, quoi, sur la communauté, quoi.
Bon, du coup, le fait que ça l'amène à... Enfin, son message est tellement plein d'amertume... tu dis c'est juste après, triste, quoi.
Ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est un gars justement qui aimait beaucoup partager plein de choses avec son blog, avec sur les réseaux sociaux et tout. Et là, je pense qu'il se prend un truc auquel il s'attendait pas. Alors peut-être qu'il va revenir, hein, peut-être qu'il va recommuniquer sur le jeu, j'espère en tout cas. Et quand même, il communique plus sur le jeu jusqu'à la sortie du jeu et qu'il préfère bosser tranquillement dans leur coin. Ok, aucun problème. Enfin, ouais. Du moment que le jeu sort et qu'ils en sont contents et que le jeu est bon au final. Voilà, mais c'est vrai que c'est dommage de gâcher cette espèce de fête qu'on se faisait tous en voyant ce jeu revenir, parce que t'as, et comme d'habitude, j'imagine, j'espère en tout cas, que c'est une infime minorité de gens qui s'expriment de manière aussi méchante, mais ouais. Voilà, ça reste quand même, que comme d'habitude, hein, c'est la minorité visible, quoi.
Une autre controverse, c'est celle du Z-Event, qui est souvent un petit peu controversée d'ailleurs, depuis quelques années. Et c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, parce que je ne sais pas assez sur tous ces sujets, sur la controverse elle-même, pour en parler avec expertise. Et en même temps, ça a fait tellement de bruit ces derniers jours qu'il est difficile de ne pas en parler du tout. On en parlera peut-être dans l'after show sereinement avec les patriotes, s'il y en a qui veulent en parler tout à l'heure. Mais d'ici, pour avoir suivi quand même ces événements et ces controverses qui ne datent pas d'hier, il y a un truc qui me frappe quand même. Et je pense que je ne vais pas me faire des amis dans la communauté. En disant ce que je vais dire maintenant, il y a un truc qui me frappe. En dehors du Z-Event seulement, c'est à quel point on ne peut pas sur Internet... comment dire ? J'essaye de chercher mes mots pour bien exprimer ce que je ressens, mais j'ai vraiment l'impression que la gravité de ce qu'on fait sur Internet est toujours considéré comme étant la gravité maximum, quelle que soit la nature de la faute ou de la comment dire, de l'erreur, du problème qu'on considère. Et c'est un truc qui me dérange sur le rapport aux controverses qu'on peut voir ici et là, parce que quand tout est forcément la fin du monde... Et je sais que c'est une impression, si on le présente comme ça, tout le monde va me dire, les gens qui critiquent ce qui se passe avec les events vont dire « Bah non, c'est pas la fin du monde, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont pas acceptables. » Mais quand tout est la fin du monde, du coup, on perd la mesure de ce qui est vraiment les choses qui sont le plus inacceptables et sur lesquelles il faut vraiment agir. Alors, pour parler du event, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui posent problème aux observateurs les plus critiques. Il y a, à vrai dire, même peut-être trois. D'une part, le choix de l'association, pour ceux qui ne savent pas, peut-être que je vais commencer du début. Le Z-Event, c'est un événement caritatif organisé par un streamer qui s'appelle Zerator, avec son compagnon de travail Dash, qui réunit, vous le savez, des dizaines de streamers depuis des années chaque année, et qui lève des fonds au profit d'une association caritative chaque année. C'est un gros événement sur la scène Twitch et sur la scène gaming depuis des années, et ils battent des records au niveau mondial de levée d'argent pour des associations caritatives. Il y avait des critiques dont je vais parler dans un instant qui étaient exprimées à l'égard du Z-Event, et Zerator a dit à plusieurs reprises ça sera la dernière version de cet event sous cette formule, l'année prochaine on changera, justement peut-être pour essayer d'adresser certaines critiques, on ne sait pas trop, hein, ça se trouve ça ne sera pas pour cette raison qu'il va changer, mais c'est la dernière version avec cette formule. Et donc, les controverses de cette année, il y a d'une part le choix de l'association, qui est une association une association qui lutte contre pour l'écologie, et voilà, on va dire ça comme ça, mais qui a des liens avec des sociétés qui sont des pollueurs, notamment Total, et on accuse l'association de faire du greenwashing de sociétés qui qui sont en réalité à l'origine des problèmes qu'on peut avoir dans ce domaine. Donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Ce que dit Zerator là-dessus, c'est que ce n'est pas facile de choisir une association, que oui, il y a peut-être des sociétés qui sont responsables de certaines choses derrière, mais l'association en elle-même fait du bon travail, c'est celle qu'ils ont choisie, et il faut que l'association puisse gérer des millions d'euros de donations qui vont leur arriver, etc., etc. Donc, sur ce point, je ne connais pas assez bien l'association, donc je, à vrai dire, sur chacun des points, je vais vous exposer la nature de la controverse, peut-être sans commenter directement, et puis je reviendrai à mon avis plus général ensuite. L'autre sujet, c'est les participants. Les participants, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas ou qui ne participent pas cette année. Et certains ont constaté que c'était surtout des participants qui étaient d'origine... Enfin, je ne suis même pas sûr, mais il y a une histoire de racisme, en gros. En gros, il y a des gens qui disent... Alors, soit c'est des gens qui étaient plus ou moins racistes, soit c'est des gens qui sont d'origine étrangère, soit c'est des gens, etc. Et du coup, il y a eu des questions de racisme, des accusations de racisme. Et les streamers qui... n'y vont pas, ont été s'exprimer sur Twitter et sur Twitch pour dire, alors moi j'ai été invité, on pense par exemple à Kameto qui a été invité et qui dit, moi j'y vais pas, j'y ai été invité, j'y vais pas parce que d'une part j'ai un autre truc qui tombe sur au même moment et c'est le cas pour beaucoup des streamers qui n'y vont pas malgré une invitation, mais il dit en plus je le sens plus, j'ai l'impression d'être arrivé au bout du truc, enfin, mais par contre il dit arrêtez de trasher les gens qui y vont, c'est un bel événement, et c'est le sentiment général qu'on a eu de la plupart des streamers qui ont réagi à ces controverses-là. Donc voilà pour cet aspect. Et puis enfin, l'autre aspect qui est récurrent depuis des années, c'est la présence de streamers qui ont eu des moments, on va dire, inopportuns, des moments... Et un truc qui revient beaucoup, c'est des questions de racisme. Comment dire ça ? De racisme, je ne sais pas s'il y a un terme précis, mais de racisme soft. Ce que j'appelle le racisme soft, là, c'est le racisme qui n'est pas, je sais pas, un truc hyper violent, hyper ouvertement raciste, mais des trucs... qui sont un petit peu plus pernicieux, des accents, on parle beaucoup d'accents, de gens qui ont fait des accents, ce genre de choses, qui sont, pour lesquels certains vont dire « Oh mais ça va, c'est bon, on rigole, c'est pas la fin du monde », et les critiques, à juste titre et à raison, disent « Mais non, c'est pas juste on rigole, c'est que ça contribue à installer ou à faire perdurer des images et des comportements qui sont nocifs et qui installent justement cette ambiance raciste qui est pour laquelle Twitch est souvent critiqué. Donc, on reproche à Zerator de ne pas avoir plus de desservement.
Dans le chat, pardon, je t'interromps. Dans le chat, il y a juste Fanny qui dit c'est vrai qu'on peut parler de racisme systémique. Le terme est peut-être plus approprié, ouais. Dans le sens où c'est un truc qui est beaucoup plus pernicieux, en fait, et qu'on réalise pas forcément comme ça immédiatement, tu vois. D'où le côté un peu violent, mais ça veut dire à peu près la même chose. Hein.
La raison pour laquelle je fais cette distinction, c'est que je pense que le racisme systémique ou le racisme ordinaire, comme on nous le dit, il peut être plus violent. Ça peut être, enfin, plus violent. Ils sont tous violents, toutes les formes de racisme ou de sexisme sont forcément violentes, mais c'est pas des gens qui vont aller critiquer certaines ethnies ou dire j'en sais rien, moi, les Africains sont paresseux, tu vois, ce genre de trucs. C'est pas des trucs aussi ouverts, c'est plus des trucs où on va faire des remarques qui vont être plus soft et qui, du coup, ce que je veux dire, c'est que ça peut, au regard de nous tous qui sommes, et de certains spectateurs qui sommes dans une société où effectivement il y a une sorte de racisme systémique imprégné, et on parle de racisme, on pourrait parler de sexisme, qui vont dire « Oh mais c'est bon, on rigole, on n'est pas... » Tu vois, c'est pas ouvertement et objectivement, enfin si, même si c'est objectivement, mais c'est pas ouvertement quelque chose de à l'extrême du racisme. Et du coup, l'une des personnes qui a été ciblée, si je ne me trompe pas, c'est Altaïr, qui avait fait un truc qui est évidemment assez lamentable, qui, lors d'une partie de je sais plus quoi, de Fall Guys ou d'un truc du genre, avait perdu et avait fait un accent raciste en mettant des images de singes, de bonobos, ce genre de trucs, qui sont, enfin, clairement, c'est quelque chose qui est, qu'on ne peut pas ne pas critiquer. Maintenant, sans parler de lui spécifiquement, parce que je ne connais pas assez le personnage, je n'ai pas suivi ses streams après, je n'ai pas suivi vraiment ce qu'il a dit de ça. Enfin, il s'en est excusé, il a été banni de Twitter. Et je ne sais pas si c'est sincère ou pas sincère, si ensuite il a vraiment corrigé son attitude, etc. Mais d'une manière générale, quand je disais les gens critiquent... Quand on critique un comportement ou quoi que ce soit qui s'est passé, on est forcément à un niveau 10 de l'inacceptable, alors que, je ne sais pas, il y a une différence entre, je vais dire n'importe quoi, aller voler un magazine dans un kiosque et commettre un meurtre, tu vois. Et j'ai l'impression qu'avec le cycle infernal de Twitter... Et aller voler un magazine dans un kiosque, oui, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, clairement, il faut pas le faire, et c'est un vol, c'est un crime, etc., tout ce que vous voulez. Et on peut le critiquer, c'est un exemple, hein. Je dis pas que c'est la même chose que de faire des accents racistes dans un stream. Mais là où ça me gêne quelque part, parce que c'est une sorte de machine Internet et Twitter, c'est que c'est des gens qui, souvent, passent 5, 6, 10 heures par jour, 40 heures par semaine en stream, qui sont quand même assez jeunes, qui vivent dans une société où effectivement le racisme est systémique et qui sont confrontés souvent à leurs propres contradictions ou leurs propres défauts dont on va le leur reprocher, et c'est pas facile à encaisser quand c'est comme ça que t'as grandi et la société dans laquelle t'as grandi. Et la plupart, j'ai l'impression, font des mea culpa. Alors après, on va dire, ah, c'est pas assez sincère, c'est pas assez vrai, machin. Et on va leur reprocher encore des années après les choses qui se sont passées il y a... Alors en l'occurrence, c'était un truc en 2018. Et du coup, je comprends pas le but. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a fait ça en 2018 et qu'il s'en est excusé, il a été banni de Twitch et il ne le fait plus, et il s'est exprimé dans ce sens et il a dit qu'il avait fait des erreurs, bah du coup il a plus le droit de rien faire de sa vie. On est 4 ans après, il va dans un événement caritatif. Est-ce que le fait de faire une faute, on a tous fait des conneries. Je crois que on irait voir dans la vie de chacun d'entre nous, on pourrait trouver quelque chose qui est objectivement critiquable. En l'occurrence, c'est des gens qui sont encore une fois souvent très jeunes, qui agissent sur Twitch comme ils agiraient entre des potes en train de rigoler, sauf qu'une petite connerie qui est à côté de la plaque est diffusée à des milliers de personnes. Et c'est facile de dire « Ah bah oui, mais ils ont une responsabilité, ils ne devraient pas. » C'est facile, oui, c'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais... Quand tu as, je sais pas, 18, 20, 22 ans, enfin, t'es encore très jeune, t'as pas été confronté à ce genre de choses. Et je dis pas que c'est pas des erreurs, mais est-ce que ces erreurs, qui sont encore une fois, ils sont pas allés poignarder des gens dans la rue, est-ce que ces erreurs doivent les suivre tout le reste de leur vie? Est-ce qu'ils ont interdiction de participer à un événement caritatif? Je suis inquiet. Alors, première chose, évidemment, vous le savez, hein, vous suivez cette émission, racisme, sexisme, les problèmes de ce type-là, je ne suis pas le genre de personne qui essaye de minimiser. Et j'espère que vous comprenez à quel point j'essaye de séparer les deux problèmes qui, tous deux, sont des problèmes. Et au premier plan d'entre eux, évidemment, le racisme est un problème. Mais en même temps, le fait de condamner à perpétuité quelqu'un qui a fait une connerie parce qu'il était jeune et qu'il a été banni et qu'il s'en est excusé, ça me paraît quand même problématique aussi. Et encore une fois, je ne connais pas les streamers en question qui sont critiqués, mais à chaque fois que j'en ai vu des choses, c'était de cet ordre d'idée. Et ce n'est pas des choses que j'excuse, mais simplement, il faut pouvoir passer la rédemption doit être possible. Si la rédemption n'est pas possible, on entre dans un monde où la moindre erreur, enfin, si on fait une erreur à un moment dans notre vie et qu'on est jugé par cette erreur jusqu'à la fin de nos jours, ça me pose un problème aussi. Donc, Voilà, j'imagine que ce n'est pas forcément l'analyse que voulaient entendre certains des auditeurs, mais au-delà du The Event, c'est quelque chose qui me pose un problème, moi, sur l'effet d'entraînement de Twitter et d'Internet et la manière dont les gens sont jugés pour des erreurs qui ne sont pas... enfin, qui devraient pouvoir se rattraper, quoi. Bon. Je te
non mais écoute, je t'ai écouté de manière tout à fait je t'ai écouté sagement, pardon. Je suis globalement d'accord avec toi. Enfin, c'est aussi le prisme déformant du réseau social actuel où effectivement le moindre petit truc va te suivre pendant des années, quand bien même tu t'excuses, quand bien même t'es sincère, quand bien même t'essaies de faire un monde honorable, etc. Voilà, c'est comme quand des gens ressortent des tweets d'un mec d'il y a 6 ans en disant regardez ce qu'il a dit il y a 5 ans. Enfin voilà, c'est un problème, mais c'est un problème extrêmement complexe. C'est un problème extrêmement complexe. Moi je te l'ai dit en début d'émission. Enfin, j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter parce que c'est pas quelque chose que je suis au quotidien, le Z-Event et le monde des streamers, tout ça. Moi ça me, je pense que je suis trop vieux pour ça, quoi. Tu vois, je fais, non, mais tu vois, parle-moi plutôt d'Amiga 500 Mini, tu vois, Patrick.
je comprends.
Non, mais je plaisante, mais voilà, après, l'événement en soi, effectivement, peut-être qu'il est arrivé aussi au bout d'une certaine formule. On verra, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça fait aussi plusieurs années que je crois que à chaque fois, ils battent leur record précédent en termes d'argent levé. Et ça, mine de rien, c'est quand même super. Enfin, voilà, quelle que soit l'association derrière. Alors, certes, l'association qui a été choisie, c'était cette année. Effectivement, elle a pas l'air d'être parfaite, voilà. Mais bon, c'est mieux que rien. Peut-être qu'ils auraient pu choisir autre chose. Je t'avoue que j'ai pas d'avis sur la question, mais peut-être il faudra voir effectivement si ces polémiques-là vont faire que l'événement aura moins de succès que les autres années. Je sais pas. Et effectivement, est-ce qu'ils sont arrivés au bout d'une formule et qu'il va falloir un peu se renouveler l'année prochaine. Ce sera intéressant de suivre ça en tout cas.
Moi, je pense qu'ils vont pas battre le record de l'année dernière cette année. Ça a l'air un petit peu. Compromis, mais bon, déjà, c'est... Ce qui est notable, c'est qu'on sent dans les messages de Zerator, il dit, mais on voulait vraiment faire quelque chose sur l'écologie, et il y a des contraintes dans le choix de l'association que vous ne voyez pas, en gros, ce qu'il dit en quelques... Je pense pas qu'il ait choisi cette association pour greenwasher total, quoi, par exemple. Tu vois, c'est... Enfin bon, bref. Et je précise, et ça sera mon mot de la fin, d'une part, si pour vous écouter en ce moment et que vous voulez participer à l'after show, les Patriotes veulent participer à l'after show, peut-être pour me présenter les choses d'une manière que je n'avais pas considérée, n'hésitez pas à venir après la fin de l'enregistrement. Et d'autre part... Avec tout ce que j'ai dit, évidemment, on est complètement d'accord que la question du racisme est importante et que quand il y a des gens qui dérapent sur Twitch, il faut le dire. Et il y a une énorme différence entre ceux qui sincèrement s'excusent et essayent de mieux faire et ceux qui continuent dans leur travers. Donc bon, bref. Voilà pour ce petit drama, ce petit gros drama. Quelqu'un disait sur le Discord, j'ai l'impression que c'est Twitter qui rentre dans un cycle infernal, comme toujours. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais on verra, l'événement, c'est en septembre, si je ne m'abuse. En septembre, cette année. Vous savez, il y a des gens que j'aime bien, comme par exemple mes enfants, Jika, ma femme, tout ça. Et puis il y a des gens que j'adore. Des gens comme par exemple Avalanche, qui a mis un commentaire iTunes aux États-Unis qui dit « Le podcast Le Rendez-vous Jeu à ne pas manquer. J'avais arrêté d'écouter Le Rendez-vous Jeu pendant une période parce que j'avais du mal avec les séquences Avocat du Diable et sans doute par manque de temps. Mais je lui ai redonné sa chance il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'est moi ou Patrick qui ont changé ou les deux, mais je trouve que ce podcast est clairement au-dessus du lot désormais. C'est toujours intéressant, peut-être parce qu'il a écouté que les épisodes avec Jika. C'est toujours intéressant, de la bonne humeur avec des invités complémentaires que j'aime retrouver, sans oublier les sujets qui font débat, mais qui sont super bien traités. J'espère qu'on ne t'aura pas déçu dans cet épisode Avalanche. Au point que mes jeudis, alors ça c'est la partie importante, au point que mes jeudis, jour de diffusion du podcast, sont devenus meilleurs. Ça peut paraître too much comme commentaire, mais je tenais à dire merci pour le super travail, Patrick. Et ben, merci à toi. Si je peux rendre tes jeudis un petit peu meilleurs, je suis extrêmement fier. Et si je rends vos jeudis à vous un petit peu meilleurs, genre en meilleur de combien ? 1%, 2%, 5%. Et bien peut-être que ça vaut le coup de soutenir cette émission que vous appréciez. Et vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvjeux. Et en faisant cette action active de soutien, vous aurez plein de petits bonus sympas comme les émissions sans pub, sans la partie promo au milieu. Vous aurez les time codes, vous aurez les contenus supplémentaires comme les éditos et les after shows, etc. Donc patreon.com/rdvjeux. Si votre jeudi est meilleur, et ben vous pouvez soutenir l'émission et aider l'émission à exister de cette manière. Merci à vous tous et à vous toutes qui le faites déjà ou qui pensez à le faire après l'écoute de ce témoignage. Patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes à faire.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et on parle maintenant des jeux. Allez, on va parler de jeux vidéo. Pour de vrai, les jeux du moment. Et c'est un petit peu la pause. On peut revenir à des jeux qu'on a peut-être délaissés il y a quelques temps. Et d'ailleurs, tu l'illustres très bien, Jika, puisque toi, mais tu ouais. T'es remis sur Tales of Arise.
C'est très JRPG. Alors, remis, non, je m'y suis mis tout court, en fait.
Tu l'avais jamais lancé.
Non. Alors, écoute, il s'est passé plein de choses dans ma vie récemment. Notamment un truc très important, c'est qu'effectivement, maintenant j'ai un Steam Deck et j'aime en parler partout aux gens en disant que j'adore cette machine et c'est vrai que je joue énormément dessus. Et surtout, le Steam Deck du coup m'a redonné goût aux soldes de Steam. Et donc c'était les soldes de Steam là. Mais c'est vrai, j'achetais en plus maintenant que le Game Pass et tout, c'est vrai que j'achetais beaucoup moins de jeux sur Steam. Les soldes de Steam, je crois, se terminent aujourd'hui, il me semble. Je dis pas de bêtises. Et en fait, Tales of Arise, c'est un jeu auquel que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc, Tales of Arise, je rappelle, c'est la série des Tales of. Hein, c'est la grande série de JRPG de Namco. C'est Namco Bandai, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Je me trompe peut-être, je sais pas. Mais moi, que je connais vraiment de loin. C'est-à-dire que j'avais joué à Tales of Phantasia, je crois, sur PSP. Voilà, j'ai quasiment jamais joué à cette série. Et là, je sais pas, j'avais envie d'un JRPG. Je suis très, très peu, spoiler, je suis vraiment pas un spécialiste du JRPG. C'est un genre auquel je joue assez peu. Mais celui-là m'attirait bien. J'avais envie d'un truc depuis FF7 Remake. Voilà, je voulais retrouver un JRPG avec un système de combat un petit peu basé sur l'action. Et donc, je me suis. Et il avait très bonne presse. Voilà, c'est un jeu qui a eu 9 sur 10 chez Gamekult, qui a eu 17 sur 20 ou 18, je sais plus, chez jeuxvideo.com. Enfin, voilà, vraiment super note. Et du coup, je m'y suis mis et donc j'y joue sur le Steam Deck. Il tourne extrêmement bien sur le Steam Deck. En plus, c'est un vrai plaisir. Et en fait, c'est vraiment vraiment chouette. C'est vraiment chouette pour les raisons en fait pour des raisons qui sont finalement assez similaires à celles de pourquoi j'aime FF7 Remake aussi. On en parlera après. Ouais. Déjà, un système de combat qui est super bien, vraiment hyper agréable. C'est-à-dire que c'est du combat en temps réel avec donc de l'action, un côté un peu beat'em all où tu peux sauter, faire tes coups spéciaux directement en temps réel, etc. Et toute une partie un peu plus stratégique où tu vas effectivement demander à tes camarades. En fait, tu incarnes un seul personnage pendant le combat, mais tu peux switcher facilement. C'est vraiment assez proche de FF7 Remake avec en plus une mise en scène vraiment over the top régulièrement avec des super coups qui s'enchaînent avec les trois personnages qui vont attaquer en même temps, etc. Bon, c'est complètement JRPG, c'est complètement over the top, mais en même temps, c'est vraiment assez cool. Et derrière, en fait, un univers de fantasy qui est très classique hein, dans du JRPG, tu vois, ça convoque un petit peu Dragon Quest, ce genre d'univers. Il y a une vraie bonne histoire et des vrais bons personnages qui sont vraiment attachants et tout un système de d'interaction entre eux que je trouve très très malin. C'est-à-dire que régulièrement, donc dans ton groupe de perso, tu peux au choix déclencher des cinématiques très courtes de dialogue entre eux qui vont creuser un peu les relations qu'ils ont avec ces personnages. Par exemple, quand tu vas te coucher dans un camp le soir pour recharger notamment ta vie, tu peux choisir de parler à un personnage. Tu choisis avec qui tu veux parler et tu vas pouvoir un peu creuser la relation que t'as avec ce personnage et en apprendre plus. Et c'est une succession de ça. C'est pas un monde ouvert, donc c'est plus à la Dragon Quest ou à la FF7 Remake. Hein, donc c'est des grandes zones qui sont liées entre elles par un très court temps de chargement. Et franchement, moi je le conseille à des gens comme moi, je pense qui sont pas du tout JRPG, mais qui sont pas complètement réfractaires au genre, qui de temps en temps aiment bien en faire un. Le jeu est très abordable dans le sens où tous les systèmes sont bien expliqués, c'est assez profond tout en étant facile d'accès. En plus, la difficulté peut être réglable à la volée, donc si vraiment tu galères trop sur un boss, tu peux régler la difficulté un peu comme tu veux. Donc c'est vraiment vraiment très très abordable et vraiment une bonne histoire, des bons personnages, un super système de combat et une direction artistique qui est assez chouette. Donc je l'ai dit, c'est un univers de fantasy, mais il y a vraiment il y a un vrai beau travail sur les décors, sur les forêts, sur les effets climatiques. C'est vraiment assez vraiment très propre. Donc voilà, très très bonne surprise pour moi ça fait partie de ces très bons JRPG modernes qui sont pas du tout des trucs à l'ancienne que moi je peux aimer, que je peux adorer, comme Triangle Strategy, tu vois, par exemple. Là on est dans un truc très moderne mais justement qui parvient à être à la fois accessible et palpitant à suivre, quoi.
T'en es arrivé où de l'histoire, sans spoiler, genre quel chapitre?
Après ce genre de jeu, je pense que honnêtement, je dois être un tiers du jeu, tu vois, je suis à une quinzaine d'heures de jeu là et ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, ce que je peux reprocher à JRPG, c'est que ça met énormément de temps à démarrer. C'est à dire que des fois il te faut 5-6 heures avant de commencer à vraiment t'amuser, etc. Là je trouve que ça démarre très vite, ça démarre tambour battant avec des vrais beaux combats, des climax intéressants, etc. Donc contrairement à pas mal de JRPG, en tout cas je trouve, on est vraiment dedans assez rapidement, quoi.
Et du coup, tu joues sur Steam Deck, tu joues dans ton lit le soir, c'est où tu l'emmènes?
Je joue dans le métro, je joue dans mon lit, je joue sur mon canapé. oui, pour le coup, alors, c'est un jeu donc qui tourne bien sur le Steam Deck, donc c'est vrai que c'est une version portable qui est super propre. Alors évidemment, c'est un Steam Deck, donc le jeu est gourmand, donc au bout de 1h45, je suis obligé de le brancher sur le secteur.
Ah oui,
c'est un peu la limite du truc, hein, malheureusement. C'est-à-dire que je ferais pas un Paris-Lyon avec, tu vois. Donc c'est, après évidemment sur PC il est propre, je l'ai essayé sur PC, sur mon PC de jeu classique, il tourne très bien. Son seul défaut, mais ça c'est un truc un peu de nerd, mais moi c'est vrai que je suis habitué, j'ai un écran 21/9 chez moi, donc c'est ultra wide et il prend pas en compte le format 21/9, donc t'as des bandes noires un peu moches sur le côté comme Elden Ring récemment par exemple, la version PC, mais voilà, vous pouvez le faire sur console, il est sorti partout sauf sur Switch, si je dis pas de bêtises, mais vous le faites sur PS5, vous le faites sur Xbox, vous le faites sur PC, c'est vraiment une bonne version, quoi. Techniquement c'est propre, quoi.
C'est terrible parce que tu me parles de Tales of Arise, j'ai envie de le reprendre. Moi j'avais une quinzaine d'heures aussi dessus l'année dernière.
Oui. Je savais pas que tu y avais joué.
Ouais, j'y ai joué. Je l'ai beaucoup aimé. Et en fait j'aimerais le reprendre sur mon Steam Deck, mais il y a pas de transfert de sauvegarde évidemment entre PS5 et Steam Deck.
Ah oui.
Et du coup, évidemment, j'ai pas envie de reprendre à zéro, mais tu sais, tous les jeux dont on entend parler des jeux avec des updates ou des gens qui en reparlent parce que Steam Deck, parce que plus solde, machin, il y en a tellement que j'ai envie de refaire. Je regardais une vidéo sur le patch 3.3 de Wild Rift par exemple, et ça m'a donné hyper envie de me replonger dedans. Avec le Final Fantasy VII Anniversary machin, je me suis remis à Final Fantasy VII Remake justement, dont on va parler dans une seconde. J'ai pas fini Horizon Forbidden West, enfin il y a tellement de trucs que je dois faire.
C'est souvent ça, en plus les vacances là en termes de sortie c'est assez creux, donc c'est le moment de reprendre ce qu'on appelle son backlog là, et moi en plus avec le format Steam Deck maintenant je redécouvre des jeux auxquels j'ai envie de rejouer énormément, tu vois, j'ai relancé, enfin non, j'ai même pas lancé. J'ai fait par exemple récemment, alors c'est encore autre chose, mais j'ai fait récemment The Stanley Parable Ultra Deluxe dessus et j'ai trouvé ça mortel. Tu vois, je suis en train de réinstaller des vieux Call of Duty. J'en suis à rejouer à Black Ops, tu vois là. Bon, tu vois, c'est un délire, hein, mais parce que je en ce moment, je suis dans ma période, je redécouvre les anciens Call of, tu vois. Donc tu vois, c'est assez, le champ des possibles est large, hein, entre Tales of Arise, Stanley Parable et Call of Duty. Mon Steam Deck, il est bien rempli. Et effectivement, j'ai acheté pas mal de jeux en solde, tu vois, ça m'a un peu retrouvé, entre guillemets, le plaisir d'acheter des jeux à 5-10 euros, tu vois, c'est assez sympa.
J'allais voir les soldes avant qu'elles se terminent.
Oui, je crois que c'est fini aujourd'hui, là.
Merde, bon, j'ai encore quelques heures. ouais, et du coup, ça me conforte dans l'idée que Sony et Microsoft doivent être en train de réfléchir à quelque chose de portable, quoi, vu le succès insolent de la Switch, et maintenant confirmé avec le Steam Deck.
Ouais. Le Steam Deck, disons que c'est par rapport à une Switch, c'est vraiment c'est tout petit en termes de vente, hein. Mais il y a un vrai engouement,
Il y a une dynamique, si tu veux. La réponse, ça ne veut pas dire qu'il ferait exactement la même chose que le Steam Deck, c'est que la dynamique est positive, et du coup, évidemment qu'ils étudient la chose, mais... Je pense que la Switch avait clairement initié quelque chose, vu son succès interminable. Et là, avec le Steam Deck en plus, je pense que ces sociétés regardent la réaction des joueurs et se disent « bon, y a peut-être quelque chose à faire, quoi. » Mais bon.
Ouais.
Écoute, justement, moi, on va passer à ton deuxième jeu dans un instant, mais je vais en profiter pour parler de mon jeu aussi, puisque je me suis remis à Final Fantasy VII Remake, comme je le disais, après la présentation de Square d'il y a une semaine, quelque chose comme ça.
Deux semaines plutôt, je dirais, moi.
Deux semaines, ouais.
Et du coup,
je me suis relancé sur le jeu que j'avais pas pu terminer à l'époque, enfin que j'avais pas terminé. Et j'ai constaté plusieurs choses. D'abord, je sais pas pourquoi j'avais mis les voix en anglais. J'étais fatigué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et putain, Barrett, il est insupportable. Il m'a gâché les quelques heures que j'ai fait en anglais.
Voilà. Non, mais on en a parlé un petit peu, enfin très vite fait. Ouais. C'est marrant qu'on en parle. Vas-y, mais je te laisse finir.
Non, mais c'est à un point. En fait, on se souvient que Barrett, dans l'original, c'était un petit peu Mr. T des années 80, vous savez, de l'agence Tourisque, sur ça qu'il était modelé. Et en anglais, on a dû dire à l'acteur, tu vois Mr. T, tu fais pareil. Et c'est... Mais d'une part, on parlait de racisme tout à l'heure, je pense qu'il y a des overtones racistes quand même assez clairs, mais au-delà de ça, enfin c'est léger, mais tu peux pas... Genre c'est le gros noir énervé, tu vois, c'est exactement ça, mais tout le temps, et ça m'a gâché le truc jusqu'à ce qu'on en parle sur Twitter et que tu me dises « Ah non, moi je joue en japonais et ça va ». Et effectivement, là où le japonais est souvent très caricatural et il s'est pas épargné par ailleurs dans le jeu... la voix de Barrett en japonais, elle est bon, c'est un petit peu caricatural, mais comme d'hab, quoi, c'est tout à fait acceptable. Et du coup, j'ai continué en japonais et ça se passe beaucoup mieux.
C'est ça, en fait, le côté over the top de Barrett quand il s'exprime, parce que voilà, il sait pas s'exprimer autrement qu'en s'énervant. Je trouve passe mieux en japonais parce que t'as un côté très très shonen, tu vois, plus qui fait que je trouve que c'est assez. C'est assez rigolo, en fait, et je trouve qu'en plus Barrett, contrairement à l'original, je le connais très mal, donc je peux pas vraiment comparer complètement, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ils ont quand même rajouté vraiment une profondeur au personnage qui était absente avant, notamment dans sa relation avec sa fille, où il peut faire preuve de sensibilité, ou alors vraiment dans ces moments-là, il devient vraiment le papa un peu poule, tu vois, auquel on s'attend pas quand tu vois le perso, quoi. Et moi, je sais qu'à l'époque, je l'ai vraiment bien aimé, Barrett, et mais par contre, va dire que j'avais accepté le fait que FF7 Remake, que ce soit Barrett ou Tifa ou la plupart des persos, en fait, ils sont tous over the top, tu vois. Et c'est ça, finalement, que j'ai vachement aimé dans le jeu. C'est-à-dire que il y a vraiment des persos complètement improbables, même des méchants qui sont complètement fous, tu vois. Mais c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, finalement, dans le jeu. Avec, effectivement, moi, j'ai joué en japonais dès le début. C'est vrai que j'ai pris le réflexe tout de suite de mettre en japonais. Donc, j'ai même pas testé la VF ou la version anglaise. Je peux même pas comparer. Et je suppose qu'effectivement, ça doit être beaucoup plus compliqué en VF. ou en français ou en anglais. Mais je trouve qu'en japonais, ça donne un truc, très réussi dans le sens où, pour moi, je l'ai vécu comme un truc, over the top, mais avec malgré tout des moments de vraie sensibilité, des moments assez touchants au jeu, que je trouve vraiment chouette, quoi.
Écoute, les moments très touchants, moi,
alors, je sais pas si tu l'as fini.
Je suis vraiment à la toute fin, là, je crois. Je voulais le finir avant cet épisode, mais je suis vraiment à la toute fin, genre, c'est, je sais pas, la 12e fois qu'il me dit, alors là, si tu y vas, tu peux plus revenir en arrière, hein. Vraiment, là, je te jure, là, c'est terminé. Et donc, je pense que je suis vraiment à la fin. Mais je t'avoue que le dernier, les derniers 20% là que j'ai fait, c'était hyper laborieux, quoi.
Il y a des moments à rallonge, il y a des moments où il délaye la sauce. Et moi, dans ces moments-là, notamment tout ce qui était, des trucs où tu dois vraiment grinder, etc. J'ai pas honte, je me suis mis en easy. Ouais. J'ai passé le truc et j'ai pris mon plaisir comme ça. Hein. C'est vraiment, il faut pas hésiter à faire ça, quoi.
Moi, je l'ai pas fait, mais peut-être que j'aurais dû parce que, en plus, tu disais, ils sont pas trop, il y a des trucs caricaturaux, mais ça passe. Le méchant scientifique, par exemple, il y a tout un passage avec le méchant scientifique où il est dans son laboratoire et ricane et il fait son. Enfin, ouais. C'est vraiment. Tu sais, les Japonais, ils sont pas très subtils, souvent. Et là, on est pile dans ce truc, quoi. On avait déjà parlé, c'est le personnage, hein, Aerith, qui est la gentille, qui soigne, qui aime les fleurs, tu vois, et puis Tifa, qui est à moitié à poil. Moi, ça passe pas, quoi.
Ouais,
Tifa,
à moitié à poil. Mais bien sûr, il y a plein de. Je suis d'accord avec ça, tu vois, mais c'est vrai que moi, j'ai réussi à l'époque, en tout cas, quand je l'ai fait, parce que. Je l'ai fait, c'était quand il est sorti, quoi. J'avais accepté ce contrat, tu vois. Je savais dans quoi m'engageais. Et surtout, je connaissais pas FF7, tu vois. Enfin, je connaissais vite fait, j'y avais jamais vraiment joué. Donc, j'ai découvert un peu l'univers, enfin, je sais que moi, j'étais emporté par les musiques, par le système de combat, par ce genre de choses qui m'ont permis de m'accrocher jusqu'au bout pendant 50 heures, tu vois. Et, par contre, là, tu vois, j'ai fait un peu, sur le Steam Deck, encore une fois, je suis désolé d'en mettre une couche, mais j'ai fait, parce qu'il tourne très bien sur Steam Deck, pour le coup, j'ai fait le Intermission, le DLC. Et je l'ai pas fini encore, mais je suis moins emballé quand même par Yuffie, par le personnage de Yuffie et tout. Bon, ouais, c'est sympa, mais c'est un peu, j'ai moins été convaincu, quoi.
Écoute, pour toutes les critiques que je fais, je veux quand même aller au bout. Bon, là, j'y suis, même si c'était laborieux. Et mine de rien, l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit je vais le reprendre, c'est que je ziote Crisis Core, c'est ça, c'est le remake de Crisis Core, qui va arriver cette année. Il y a eu d'ailleurs quelques nouvelles photos, genre un tweet avec quelques photos, quelques infos. Il parle notamment d'un nouveau battle system basé sur des menus. Et je suis très curieux du coup de voir les aventures de Zack et de voir comment ça se connecte à Final. Parce que moi, je n'ai jamais fait ces jeux-là à l'époque. Et Crisis Core, il était sur PSP, je crois, donc peu de gens l'ont fait. Et du coup, malgré mes critiques, je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner. Et je risque de plonger. D'ailleurs, malgré mes critiques, le 7 remake, je crois, était dans mes jeux de l'année à l'époque en 2020. Je ne me souviens plus, mais je crois. Le truc, c'est que c'était enthousiasmant quand il est arrivé. Là, le reprendre 2 ans plus tard, c'est un petit peu plus, j'en vois plus les défauts, on va dire.
Oui, c'est possible.
Mais donc, voilà pour Final Fantasy VII Remake. Toi, t'as joué aussi à Shredder's Revenge, dont on parlait la semaine dernière, je crois.
Vous en avez déjà parlé, d'accord.
Super bonne surprise.
Ouais, moi, je serais peut-être un peu moins enthousiaste. En fait, je vois les qualités du jeu, c'est-à-dire que on a exactement ce que les fans du jeu de l'époque attendaient, c'est-à-dire une suite à Turtles in Time, donc le beat'em all de la Super Nintendo. On a ça sur plein de points, c'est-à-dire qu'on a effectivement un jeu en pixel art qui est super beau, extrêmement bien animé, avec plein de beaux décors, des combats très dynamiques, des personnages qui sont très avec quand même un gameplay assez varié, avec en plus April et Splinter en personnage jouable. Ça, franchement, je le reconnais. Mais moi, mon problème que j'ai, et limite c'est personnel, c'est que j'ai énormément joué à Street of Rage 4. Et je trouve que je peux pas m'empêcher de comparer Shredder's Revenge à Street of Rage 4, parce qu'en plus c'est le même éditeur, c'est de Temu, et je trouve que Street of Rage 4 a une profondeur de jeu, a une durée de vie, a une ambition même artistique que je trouve bien meilleure. Et du coup, Tu vois, j'ai joué à Shredder's Revenge. Tu vois, je m'amusais bien et tout. Alors, je l'ai pas testé en multi. Et apparemment, multi, il prend quand même une autre dimension. Moi, j'ai joué qu'en solo. J'ai fait, ok, ouais, non, c'est sympa. Chaque niveau est assez cool et tout. Mais tu vois, je ressentais pas forcément le besoin d'enchaîner les niveaux. Tu vois, je faisais un niveau comme ci. Après, je passe à autre chose et je refais un petit niveau par là. Je trouve qu'il manque un petit truc. Il manque un petit truc en plus. C'est-à-dire qu'il y a pas de, par exemple, l'interaction avec les décors est quand même très, très, très basique. Les ennemis sont tout le temps les mêmes, dans le sens où c'est tous des ninjas avec des color swaps et ils vont avoir des armes différentes, mais globalement, voilà, t'as pas la variété que tu as notamment dans Street of Rage 4 où t'as plein, c'est tellement bouillonnant en termes de design, de caractère design que c'est vraiment génial. Là t'as pas ça. Donc c'est un bon beat'em all, aucun souci là-dessus. Ils ont réussi, pour le coup, comme Street of Rage 4, à approfondir le système de jeu. C'est un beat'em all en 2D, donc de base c'est quand même très répétitif. Tu tapes toujours le même bouton, mais il y a quand même tout plein de systèmes de combos, des petites attaques spéciales qui sont cool. Mais il manque un truc, tu vois. Pareil, la bande son, je sais pas, les gens ont l'air de l'apprécier, mais moi elle m'a pas transporté plus que ça. Donc voilà, je suis pas déçu parce que je ne l'attendais pas forcément beaucoup, mais voilà, je trouve ça, pour moi c'est un jeu qui est ok, mais ça va pas être le truc qui va me, je sais que je vais pas y passer 30 heures, quoi.
D'accord. Donc un petit
tu vois,
peu
je sais pas si tu as joué toi, mais
oui moi j'y ai joué un petit peu, mais tu sais, je suis pas super fan de ce genre de jeu. Il m'a plus plu, ouais, que Street of Rage 4, mais j'ai joué 2 heures à chacun de ces jeux, tu vois, donc c'est pas non plus que je suis allé très très loin dans l'exploration de la profondeur.
Pareil, en termes de mode de jeu, t'en fais assez vite le tour, tu vois, il manque des niveaux en plus. Enfin, bon, après, Street of Rage 4 a eu des mises à jour depuis et tout, avec pas mal de modes, qui rajoutent notamment un mode roguelite un peu qui est super. Bon, voilà, et je peux... Son problème est, enfin, c'est un problème sans lettre, c'est-à-dire que pour moi la comparaison à Street 4, Street of Rage 4, elle est, je peux pas m'empêcher de la faire parce que j'ai passé énormément de temps dessus, mais peut-être que d'autres gens qui n'ont pas joué à Street of Rage 4 vont trouver ça mortel.
Moi en fait j'ai eu l'impression de m'amuser plus facilement sur TNMT que sur Street of Rage 4. Donc
ah ouais,
bon, ouais, un petit peu.
Bah, après moi j'ai un affect pour Street of Rage 4 qui est beaucoup plus fort.
Ouais, bah oui, c'est le. Ouais,
c'est, ça joue aussi forcément, ouais.
Peut-être, ouais. Donc voilà pour Shredder's Revenge. On a aussi. Alors moi, j'ai continué à jouer à quelques autres trucs et tester des choses ici et là. J'ai continué à jouer à Neon White, toujours très fun. Franchement, celui-là, il est. C'est marrant parce que c'est pas une qualité explosive, mais c'est vraiment d'une. Fiabilité de fun qui est assez inégalée, et je pense que, comme je le disais l'année dernière, je confirme, je pense qu'il sera dans mes discussions à la fin de l'année. J'ai continué à jouer aussi à Overwatch 2, complètement happé par le truc, même s'il y a peu de changements par rapport au 1, ça a fait renouveler un petit peu l'intérêt. Je suis curieux de voir ce que ça donnera quand il sortira vraiment et si ça pourra tenir mon intérêt, mais il y a un truc qui est vraiment unique sur Overwatch, c'est que quand je veux passer 20 minutes à jouer à un truc qui est pas trop stressant, qui a pas trop d'importance dans la... Comment dire ? Qui a pas trop d'enjeu, je lance Overwatch, je peux jouer 20 minutes, je peux jouer 1 heure, je peux jouer 2 heures, et c'est fun. Et ça, c'est le cas du 1 aussi, mais le 2 est toujours... recréé un petit peu cette magie, même s'il est très proche du 1. Donc, bon, j'ai continué sur Overwatch 2. Et j'ai testé aussi Naraka Blade Point, qui est assez... Vous savez, c'est ce Battle Royale, mais avec des armes de mêlée. Tu connais Naraka Blade Point ou pas ? T'en as entendu parler ?
Non,
sorti sur PC
de nom, mais... ouais, je sais que de nom, ça me parle, hein, mais je sais pas... Ah ouais, d'accord, non, si, je vois, ouais. C'est un Battle Royale, mais en TPS, beat'em all un peu, quoi.
Exactement, c'est un Battle Royale en TPS avec des armes de mêlée, des épées, arcs, ce genre de choses. Et j'étais très curieux, il est arrivé dans le Game Pass il y a une semaine, j'étais très curieux de voir ce que ça pourrait donner. J'ai pas beaucoup, beaucoup joué, hein, j'ai joué 2 heures, mais assez surpris, c'est vraiment... Alors,
mode Battle Royale, vraiment, on a une carte avec les cercles qui se referment, les objets qu'on va acquérir, etc. Différents types d'armes, différents types de... Et vraiment différents types, genre on a des épées, des canons, des, ce genre de trucs. Mais essentiellement, c'est basé sur l'épée. Et donc, quand on est en combat contre une personne qu'on rencontre sur la carte, au début, on commence avec des bots, donc c'est plus facile. Mais quand on est en combat avec, contre une personne sur la table, ça se transforme un petit peu un truc genre mi-jeu de combat, mi-Devil May Cry. Et ça fonctionne vraiment pas mal. Il connaît un succès certain, Naraka Blade Point. Et je comprends. Je ne vais pas passer ma vie dessus non plus parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais il est bien foutu, il fonctionne. Il y a des trucs fun, il y a des super qui te donnent des pouvoirs vraiment spéciaux. Ça fait un petit peu animé, quoi. Ça fait un petit peu combat shonen animé. C'est un jeu qui est chinois, je crois, Naraka Blade Point. Je ne sais plus qui l'édite, mais ça fait vraiment ambiance asiatique. C'est très beau, c'est fun. Assez surpris parce que je me demandais comment ça fonctionnerait, le mix entre Battle Royale et jeu au contact. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal du tout. Donc il est sur le Game Pass, hein, vous pouvez y aller. Et l'autre truc, c'est la manette, c'est pas un truc auquel j'ai joué, mais c'est la manette Xbox Elite Series 2 que j'ai achetée pour la tester, hein, pour le boulot. Attendez, je vais la ramener. Hop. Vous savez, c'est cette manette très très chère qui coûte 160 euros, un truc comme ça. Je l'ai chopée en promo, elle était un petit peu moins chère. Et c'est la manette Xbox genre super premium, hyper qualité. Qui ressemble vraiment à une manette Xbox normale, mais on peut tout changer. On peut enlever les joysticks, augmenter la taille du comment dire, la taille, la hauteur du joystick. On peut changer la profondeur d'activation des gâchettes, genre pour que ça s'active juste à 2 mm de pression. On a des petits paddles derrière qu'on peut mapper sur d'autres boutons. Et on peut même changer la croix directionnelle. Et tout est aimanté. C'est super facile à changer. C'est hyper bien foutu. On peut garder des profils différents sur la manette. Enfin, vraiment, c'est une manette de super qualité. Maintenant, est-ce que c'est vraiment meilleur qu'une manette Xbox Series classique ? Franchement, c'est vraiment... Enfin, quand on a les deux dans les mains, oui, elle est un peu plus lourde, elle est en métal, tu sens la meilleure qualité. Mais je me demande si au quotidien, tu sens vraiment la différence. À mon avis, c'est une super manette dont personne n'a vraiment besoin, quoi. Faut passer énormément de temps sur sa console et vouloir avoir le meilleur truc possible pour le principe... et je ne suis pas sûr que ça amène énormément de choses aux joueurs. Alors peut-être que je ne suis pas assez pro-gamer sur Call of Duty, tu vois, mais j'en reconnais la qualité qui est indéniable. Oui. Mais ouais, tu penses que c'est pour
le pro? Moi, j'en ai une aussi, hein, j'utilise, chez moi, c'est la manette que j'utilise sur PC. Mm-hmm. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que pour vraiment... Pour utiliser le plein potentiel, il faut jouer à haut niveau, à des FPS console notamment. Il faut avoir envie de tout customiser, de tout paramétrer très bien. Effectivement, que ce soit la distance d'activation, les palettes à l'œil, etc. Ce dont moi j'utilise très peu, quoi. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est fournie avec une belle pochette où tu peux ranger tous les accessoires. Tu peux même la charger directement via la pochette. C'est assez cool.
Tu la poses sur son dock et elle se charge.
Voilà. C'est ça, il y a un petit dock et que tu peux mettre dans la pochette aussi. Mais effectivement, je trouve qu'en plus la manette Xbox Series est vraiment extrêmement extrêmement agréable et elle va suffire à je pense 98 ou 99% du public, quoi. Donc si vous avez le budget vraiment à fond et que vous voulez la meilleure manette Xbox, ok, prenez celle-là. Mais c'est clairement, sachez que à moins d'être un joueur hardcore de haut niveau, ça va pas forcément le coup d'investir autant, quoi.
C'est ça, exactement. Et c'était ma conclusion. En fait, c'est plus une réflexion sur la qualité de la manette Xbox Series de base qu'un jugement sur la qualité de la Series 2.
Ouais. Ce que j'aime bien, c'est le grip des poignets. Par contre, la matière au niveau des poignets, c'est vraiment super agréable. Ça, j'adore. C'est vraiment le truc que je préfère sur cette manette. Et l'autonomie est super bonne. Il n'y a pas besoin de pile ni rien. Vous la rechargez en USB-C. C'est une super manette, hein, mais effectivement...
Et l'expérience premium, tu sais, t'ouvres la boîte, c'est beau, t'as les petits machins qui sont bien... Enfin, en gros, c'est un truc, si vous êtes vraiment un gros joueur Xbox, que vous jouez tout le temps, ou même PC, hein, si vous voulez une super manette PC, et que vous voulez vous faire plaisir, la qualité, en fait, de la manette, le prix, c'est quoi? C'est le double du prix. Peut-être qu'ils vont sortir une Series 3, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle était en promo récemment, mais le prix... et multiplié par deux, mais la qualité, je dirais, tu gagnes 10-15% de qualité, quoi. On va dire ça, de plaisir d'utilisation. C'est pas non plus que c'est le jour et la nuit, et que quand t'es passé à la Series Elite 2, tu peux plus réavoir une manette normale dans les mains, quoi. Donc voilà pour les trucs auxquels on a joué, les trucs qu'on a essayé, et je pense que maintenant on va faire notre petit lightning round des news rapides qui restent. Je te propose de m'interrompre s'il y a des choses qui t'intéressent dans ces news que je couvre. Ça te va ?
Allez, ouais, parfait.
D'abord, il semblerait que la chute des cryptos et l'importance de la valeur du minage fait que, enfin, les cartes graphiques vont être disponibles. Les Nvidia GeForce 3080, par exemple, sur eBay aux États-Unis, ont perdu 30% de leur valeur en 2 mois. On est passé de plus de 1 100 $ à presque 700 $. Donc si vous cherchez une carte graphique, vous avez peut-être bien fait d'attendre, et en plus avec l'annonce de la série 4000 qui devrait arriver bientôt, et ben peut-être que vous trouverez des 3070, des 3080 à bon prix, alors peut-être d'occasion, mais ça va se répercuter sur le marché du neuf aussi. Il faut garder ça à l'œil, je pense, si vous attendiez pour upgrader. Bah.
Juste pour ça, moi, c'est un sujet que je suis quotidiennement quasiment par le boulot, et c'est vrai que les prix sont quasiment revenus en fait à la normale, et c'est Nvidia qui a mis en place un site qui s'appelle Restock and Reload, je crois, où tu peux suivre un peu toutes les dispos de toutes leurs cartes très facilement. Donc franchement, si vous voulez acheter une GeForce, alors, c'est évidemment uniquement pour les GeForce, ça concerne pas les Radeon, mais si vous voulez acheter une GeForce, c'est pas mal d'aller jeter un œil, parce que en plus en ce moment c'est les soldes, donc il y a quand même des bonnes affaires à faire.
Restock and Reload.
Ouais, c'est ça, Restock and Reload.
Super. En Angleterre, l'autorité de régulation qui s'occupe de ce genre de choses a lancé une enquête sur l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft. Ils donneront leur réponse plus tard, au 1er septembre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner une réponse négative, hein, mais ils ont lancé l'enquête. Moi, je continue à penser que les choses se passeront sans trop de problèmes. Mais il y a aussi eu une interview assez intéressante de Mike Ibarra, donc le président de Blizzard, dans le Los Angeles Times. Alors, l'interview est très focalisée sur des choses un petit peu vagues, sur « oui, la société a eu beaucoup de problèmes et on fait de notre mieux pour aller de l'avant, machin ». Mais il dit une chose intéressante, il dit « on veut absolument, on va vraiment... » relancer la BlizzCon en 2023, après la BlizzCon Online en 2021 et l'annulation de la BlizzCon Online 2022, puisqu'ils avaient quand même pas mal d'autres problèmes à gérer, eh bien, il veut relancer la BlizzCon en 2023, ils y travaillent. Moi, je suis un petit peu surpris, je ne pensais pas qu'on reverrait une BlizzCon, mais visiblement, il y travaille. Alors, est-ce que ça se produira? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont l'intention de le faire. Ça va être bizarre, hein, une BlizzCon 2023... Je ne sais pas comment ça va se passer. On a quand même un an d'ici là. Ils appartiendront peut-être à Microsoft à ce moment. Bon.
Et ça se trouve, ils vont faire une Microsoft Xbox Con avec Blizzard en lead. Tu vois, à terme, ça peut être intéressant. Hein. Une espèce de gigantesque fête dédiée au studio Microsoft. Alors, on n'en est pas là du tout, je pense. Hein, mais... Ou alors, ils ont peut-être intérêt quand même à garder l'identité des marques.
Moi, je pense.
Enfin, que ce soit Blizzard, ouais, je pense quand même aussi.
Disons que s'ils font une sorte de conférence avec tous les studios Microsoft, ça s'appelle l'E3, en gros. Hein. Il y a
oui, c'est ça, ça va être un salon. Ça va être n'importe quoi, ouais, effectivement. Bon, c'est une très mauvaise idée, Microsoft, n'écoutez pas ce qu'on veut dire.
Hey, la nouvelle Nintendo Switch a été annoncée. J'aurais peut-être dû commencer avec ça, c'est quand même une nouvelle importante. Bah, oui.
c'est la Nintendo Switch spéciale Platoon 3. Oh, Patrick, comme t'es drôle. Bon. Il y avait aussi un petit truc sur un sigle NSW, genre New Switch, qui avait été déposé quelque part, que certains ont cru lire comme Nintendo qui préparait le lancement d'une vraie nouvelle Switch. Bon, on ne va pas spéculer là-dessus, mais là, si vous voulez une Switch Splatoon, eh bien, elle sera disponible un petit peu avant le lancement de Splatoon 3, qui arrive en septembre. Ubisoft va faire une conférence, enfin une présentation de Skull and Bones ce soir. Donc, enfin, après très très longtemps, Skull and Bones va être... ils vont nous en reparler, mais surtout... Ils font un showcase le 10 septembre, qui sera un showcase de plein de leurs nouveaux jeux. Je suis très curieux de voir ce qu'il y aura, parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient arriver, même cette année. Le Assassin's Creed, dont on entend parler depuis un moment, qui est un truc qui aurait été dérivé d'un DLC de Assassin's Creed Valhalla, qui aurait finalement été transformé en jeu complet. Eh ben, on nous en parlera sans doute à un moment, parce qu'il est censé sortir cette année. Donc, il y aura ça et plein d'autres choses, évidemment. Ça sera le 10 septembre. Il y a aussi un jeu mobile de Division, The Division Resurgence, qui va arriver, qui a l'air d'être juste un jeu de Division, mais sur mobile. Alors moi, j'ai pas été complètement conquis par The Division, mais il arrive sur mobile. On ne sait pas quand, il y a une alpha fermée qui va être lancée bientôt. Mais au niveau graphique et type de jeu, ça a l'air d'être vraiment The Division. À voir ce qu'ils feront pour le modèle économique, mais c'est assez impressionnant hein, comme présentation graphique, en tout cas. Il y a aussi Nacon, qui va faire son Nacon Connect. C'est quand déjà que je dise pas de bêtises? C'est ce soir aussi, voilà. Nacon Connect, alors, c'est pas forcément que des jeux que vous connaissez, hein, chez Nacon, c'est un éditeur français. Je sais pas si on dit Nacon ou Nacon ou Nacon.
Il y a des jeux... moi, mais ouais.
Pardon?
J'ai toujours dit Nacon, mais c'est... je suis pas sûr non plus.
Les jeux qu'on note, c'est Steel Rising et Le Seigneur des Anneaux Gollum. C'est quand même un jeu un petit peu bizarre à faire, Gollum, comme pour Le Seigneur des Anneaux, mais bon, pourquoi pas. Et Steel Rising,
apparemment, Steel Rising, c'est le nouveau Spiders, qui a l'air d'avoir un univers assez cool. Enfin, je sais que les premières previews seront plutôt enthousiasmantes.
Ouais. Avec ses automates, Gollum, pendant la Révolution, ce qui est intéressant.
Avec un jeu à la Souls, hein, apparemment, c'est quand même un jeu très, très Souls dans l'esprit. Gollum, je sais pas, parce que apparemment ça ressemble beaucoup à ce jeu là, Styx, Master of Shadows, donc un truc très infiltration et tout, donc ça pourrait être intéressant. Et il y a un autre jeu que je suis curieux de voir, même si je sais pas du tout ce que ça va donner. Il bosse sur un jeu Robocop, je crois que c'est chez eux, hein, et il fait partie des trucs, mais j'ai trop envie de voir ça, quoi. Je sais pas ce que ça peut donner, mais j'ai trop envie de voir un jeu Robocop, parce que ça fait combien de temps qu'on a pas eu un jeu Robocop, franchement, hein, beaucoup trop longtemps.
C'est Robocop Rogue City qui a été annoncé il y a un moment déjà, des mois de ça.
Il y a au moins un an.
Qu'un teaser. Ouais. Ouais. Qui doit sortir en 2023. Robocop, vraiment, il y a des opportunités incroyables, parce que non seulement le jeu peut... Enfin, Robocop, ça peut... on pourrait se dire, mais pourquoi en a-t-on besoin? Mais le jeu peut être fun au niveau mécanique, mais en plus, il y a un setting, un propos qui peut être intéressant.
Est-ce qu'ils vont réutiliser tout le côté un peu au vitriol, notamment des deux premiers films? Ça, c'est pas sûr, hein, mais ce serait bien. On verra.
CD Projekt Red a annoncé et sorti dans la foulée un nouveau jeu Gwent, leur jeu de cartes de Witcher 3, qui s'appelle Gwent Rogue Mage, qui est un jeu solo roguelike. Et qui est focalisé sur... il y a trois types de decks avec... Enfin bref, c'est un nouveau jeu Gwent qui est disponible pour 10€ dès aujourd'hui. Donc si ça vous avait intéressé, que vous voulez une expérience solo un petit peu retravaillée, ben, vous pouvez vous lancer dans Gwent Rogue Mage. C'est une expérience solo un petit peu roguelite.
Bright Memory Infinite sortira le 21 juillet, donc dans quoi, deux semaines. Bright Memory Infinite, vous vous souvenez, c'est l'un des jeux qui avait été présenté à la présentation de la Xbox Series, qui est développé par un développeur, mais qui est hyper impressionnant. On parlait ces dernières semaines de la possibilité de créer des choses avec tellement plus de facilité qu'il y a quelques années. Et un seul développeur peut créer un jeu qui a l'air vraiment d'un triple A. En plus, au niveau gameplay, il a l'air... bon, il pourrait se planter complètement, mais il a l'air intéressant. C'est un mélange entre FPS et jeu au sabre à la première personne, avec un dynamisme un peu fou. Il est super beau, il ressemble à un jeu... oui, vraiment un jeu triple A avec des effets de météo, des trucs, enfin, à voir. Mais je suis très curieux. Il arrive et je crois qu'il arrivera dans le Game Pass, si je ne me trompe pas, le 21 juillet. Il arrivera sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Alors, je ne suis pas sûr de... Ça sera, je suis curieux de voir ce que ça donnera sur Switch, un jeu comme ça. Mais il sera disponible le 21 juillet. Il y a d'autres jeux qui, enfin d'autres choses qui ont été annoncées, comme l'arrivée de la campagne coop de Halo. J'ai l'impression qu'elle arrive vraiment, enfin c'est pas qu'elle sort par la petite porte, mais elle arrive par la petite porte, c'est le 11 juillet, donc dans quelques jours à peine, et il y aura la possibilité de rejouer les missions, mais le coop de Halo, qui est quand même un élément hyper important, il arrive enfin, mais bon, ça fait plus beaucoup de bruit évidemment à ce stade. Et puis, Forspoken a été décalé à 2023, le 24 janvier précisément. Et du coup, 2023 commence à se profiler comme une année. Alors, ça calme un petit peu octobre 2022, mais du coup, 2023, il va y avoir des trucs, quoi. Je vais vous lire un petit peu toujours sur le catalogue de l'agenda de Game Informer qui est très bien fait. On a Dead Space, le remake, et Forspoken du coup en janvier, Resident Evil 4 remake en mars, et là vous dites ok, on est déjà en mars, non mais il y a plein de jeux qui n'ont pas encore de date mais qui ont été annoncés pour 2023. Je vais vous en lire juste quelques-uns, au-delà de Disney Dreamlight Valley qu'on va suivre évidemment. Eiden Chronicles 100 Heroes, Final Fantasy VII Rebirth, donc le Remake 2 en gros, Final Fantasy XVI, Forza Motorsports, Layers of Fear, Marvel Spider-Man 2. Je continue à regarder, je saute les jeux qui ne sont pas forcément les plus importants. Redfall, Replaced, qui m'avait beaucoup intrigué. Robocop Rogue City, dont tu parlais tout à l'heure. Bon, il y a Stalker 2. Sea of Stars, qui est assez intriguant aussi. Star Wars Jedi Survivor, Starfield, Street Fighter 6, Suicide Squad. J'en passe plein, hein, mais The Invincible, Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel, qui n'est pas le 2, et encore quelques trucs que je ne mentionne pas. Il y a du lourd, quoi. Il y a du lourd. Baldur's Gate 3, me rappelle-t-on dans la chatroom. Oui, donc il va y avoir des choses en 2023.
Ah ouais, non, c'est clairement une grosse année parce que 2022, c'est pas une année blanche, faut pas exagérer, mais tu vois, en termes de triple A en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été décalées. Enfin, on est encore sur, on subit encore les effets du Covid et des confinements, etc. Quoi.
Enfin, on a quand même des trucs. Hein. Je te rappelle le février oui, Apocalypse avec Elden Ring, Horizon, il y a Elden Ring, tu vois.
Ouais, bien sûr, mais là quand je vois tout ce qui se bouscule l'année prochaine. Ça a l'air d'être quand même une année effectivement bien bien chargée, quoi.
C'est clair, ouais.
Et tu vois, on n'a pas eu cette année de gros triple A Ubisoft. Alors il va y avoir peut-être Skull and Bones qui sera peut-être le gros jeu de la fin d'année pour Ubi, mais on aura probablement Assassin's Creed l'année prochaine, tu vois, ce genre de truc, ça manque. Enfin, cette année c'est pas le cas, quoi.
Ouais. Février est déjà loin, on a tout oublié. Est-ce que tu sais ce qui est prédécesseur?
Non, ça, c'est quelque chose qui se passe avant quelque chose, je sais pas.
Tu te souviens du jeu du MOBA 3D de Epic qu'ils ont arrêté? Merde, maintenant j'ai oublié le nom du jeu.
C'était pas Fortnite à la base.
Paragon. Non,
à la base, Fortnite était un MOBA. Ah non, c'était pas un MOBA, je crois.
Pardon, mais c'était pas.
Parangon. Si, Parangon, ça me dit quelque chose.
Parangon, ouais. Et quand ils l'ont annulé, ils ont mis toutes les assets en open source et il y a un groupe qui s'est mis à le développer, enfin à le redévelopper et qui s'appelle Prédécesseur. Ils ont levé 20 millions pour continuer à le développer.
Et je suis assez surpris de voir qu'il existe encore ce jeu. C'est Omeda Studios qui développe le jeu. Et pour un jeu qui n'avait pas trouvé sa communauté à son lancement en open bêta, le fait qu'il y ait des gens qui soient assez passionnés pour se relancer dessus, je suis très curieux. Et maintenant que je suis un pro des MOBA avec Wild Rift, évidemment, je le suis un petit peu plus précisément, mais je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Puis surtout, c'est surprenant de voir ce jeu abandonné par Epic et repris par un studio indépendant. Et puis, on finit avec des sous. Diablo Immortal a déjà fait rentrer 50 millions de dollars. Donc, si on avait, on se disait qu'ils n'allaient peut-être pas...
est-ce que tu y joues toujours ?
Non, bah non. Moi, en fait, je continue à penser que le jeu est mécaniquement super bon, mais je t'avoue que j'ai été refroidi et frustré par l'ampleur du niveau pay to win. En endgame, en plus, moi, j'aurais pu jouer jusqu'au bout du jeu et même continuer à jouer sans payer. Je suis sûr que je me serais amusé. Mais ça m'a juste frustré quoi, de constater ce qu'ils avaient fait du modèle de monétisation. Mais donc non, moi, j'y joue plus. Puis il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Quoi. Mais ils ont rentré 50 millions de dollars en quoi ? Un mois ? Un petit peu plus ? Donc, je ne sais pas combien d'argent a coûté le jeu à développer. Peut-être plus que ça, mais je pense qu'ils vont rentrer dans leurs frais. Donc, Mais à côté de ça, tu vois, Nintendo, ils n'ont pas connu beaucoup de succès sur mobile, mais Fire Emblem Heroes a fait rentrer 1 milliard de dollars. Alors, il est sorti il y a quoi ? 2-3 ans ?
Il est sorti il y a...
Quelque chose comme ça. 2017, putain, ça fait 5 ans. Fait rentrer 1 milliard. Et pour le coup, si on se plaint des modèles de monétisation, là, c'est du pur gacha, quoi. Fire Emblem Heroes. Mais du coup, il a fait rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres jeux Nintendo réunis.
Tu m'étonnes.
Sur mobile. Hein,
parce que, est-ce qu'il y a encore des jeux... c'est quoi le plus récent qui est sorti ? C'est Animal Crossing ou il y en a eu depuis ?
Je crois que c'est... ils sont calmés hein, depuis 3-4 ans, depuis 3 ans. Je crois que c'est Animal Crossing. Oui. Mais par comparaison, tu vois, dans l'article de Gamekult, on a les données de Sensor Tower. Fire Emblem Heroes, il a rapporté 1 milliard. Mario Kart Tour, il a quand même rapporté 280 millions. C'est pas non plus ridicule. Pareil pour Animal Crossing. Et Mario Rush, par exemple, il n'a rapporté que 87 millions. C'est ridicule. Mario Run, pardon.
Dr. Mario World, que tout le monde avait oublié.
Oui, c'est ça. 14 millions.
Ce jeu était sorti.
Mais tu vois, même un jeu comme Mario World, il n'a pas coûté 14 millions à développer.
Je pense que c'est quand même les plus petits chiffres, c'est quand même méga rentable. Je veux dire, je m'en rends pas compte, mais peut-être je veux dire une énorme connerie, mais un jeu comme Dr Mario, ça a pas coûté plus de même 2 millions, ça me paraît gros, tu vois, en coût de développement quoi. Donc ça va quoi. Ça va.
Mais Nintendo, tu vois, c'est le genre de société qui se s'arrête pas dans la rue pour ramasser un billet de 10 millions. Tu vois, ça les intéresse pas. Il faut parler en chiffres un petit peu plus importants, quoi.
Il laisse ça à Sony et Microsoft. Ouais. Billet de 10 millions. Tu vois. Parce que ceux qui brassent de la thune vraiment énormément, c'est eux. Hein.
Bon, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce formidable épisode du Rendez-vous Jeu et j'aimerais remercier très chaleureusement JK de m'avoir accompagné pour cet épisode avant les vacances que je vais passer avec mes enfants adorables et merveilleux. Quelques semaines à venir dans le plus pur bonheur, à nager dans la joie. Et c'était le meilleur moyen d'ouvrir cette période, de passer 1h30 avec toi à parler de jeux vidéo. Donc un grand merci JK. Toi, t'es pas en vacances encore tout de suite. Je sais qu'en tout cas, tu seras là ppour animer l'émission à la fin du mois. Donc, t'es de garde.
On fera ça tranquillou avec des gens, avec un casting que je ne connais pas encore. Hein, mais je vais voir si j'arrive à me réconcilier avec Dany d'ici là. Peut-être qu'il sera invité.
Écoute, je serai très heureux de vous voir vous réconcilier et vous, cimenter votre amitié avec en disant du mal de moi, par exemple. Tu vois, lui, il a beaucoup l'habitude.
Bien sûr, c'est la base.
Où te retrouve-t-on, dis-moi, sur Internet?
Yes, bah écoute, sur jeuxvideo.com, hein, ça n'a pas changé pour les sujets beaucoup plus tech que jeux vidéo, pour le coup. ZQSD, avec un numéro qui est sorti il y a 2 semaines, même pas, où on revient quand même sur le Steam, sur le Summer Game Fest, on revient sur le PC Gaming Show, on revient sur Microsoft, etc., etc. Et on parle aussi pendant une demi-heure de Stanley Parable, je l'ai évoqué tout à l'heure, Ultra Deluxe, qui est un excellent jeu, je le redis. Et voilà.
Pour ceux qui ont refait le Stanley Parable, ça vaut le coup? Je sais qu'il ne faut pas spoiler, mais...
C'est une bonne question, parce que si vous avez vraiment aimé l'original, ça vaut le coup de le faire, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu en plus. Il y a bien 4 heures de contenu en plus, tu vois, en termes de durée de vie, ce qui, par rapport à l'échelle du jeu, est très bien. Et il y a des trucs assez brillants, parce que c'est une vraie réflexion sur le succès du 1, en fait. Qu'est-ce que tu fais après avoir fait comme un jeu comme Stanley Parable?
C'est pas juste le même en étendue.
En vrai, ça pourrait presque s'appeler Stanley Parable 2, même si en fait tout le contenu du 1 est là. Tu peux, moi par exemple, Stanley Parable, je l'avais pas fait à l'époque, donc tout le contenu du 1 est là. Tu peux découvrir tout le contenu original, et t'as plein de nouveaux contenus qui sont vraiment des trucs de post Stanley Parable, post succès 10 ans après, etc. Et c'est hyper hyper intéressant.
Bon bah encore un jeu à ajouter au Steam Deck du coup.
Voilà, exactement.
ZQSD.fr, jeuxvideo.com et le compte Twitter de JK, évidemment. Vous aurez le lien vers ce dernier dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous avez dans les notes de l'émission également le lien vers le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Si vous n'arrivez pas à le retenir, vous pouvez aller cliquer ou tapoter sur le lien sur votre téléphone. Ça prend 2 minutes de s'abonner. Je vous remercierai en revenant début août. Donc, j'espère qu'il y aura plein de gens que je pourrai remercier à ce moment-là. Et ça va être à peu près tout. Hein. On vous a préparé, comme je disais, des épisodes spéciaux pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée du remplaçant fin juillet. Il y aura peut-être d'ailleurs un petit épisode bonus des Slackers. Hein. Chaque année, ils nous font leur petit épisode bonus. J'espère qu'ils seront présents au rendez-vous aussi cette année, qu'on retrouvera les membres de la communauté. Et puis, si vous êtes patriote, on va voir si on va discuter un petit peu du The Event ou d'autres choses dans l'after show. Et puis sinon, c'est rendez-vous pour l'épisode spécial de la semaine prochaine où on va parler... Alors, est-ce que je déflore un petit peu? Oui, allez, je vais le faire. On va parler de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo. J'ai parlé avec 2 experts bien plus intelligents que moi, et on a eu une conversation absolument passionnante, une heure et demie, quelque chose comme ça. Et j'ai appris plein de choses, donc j'espère que vous apprendrez des choses aussi et que ça vous plaira. Je vous fais des grosses bises et rendez-vous très vite. Ciao, ciao!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.